depuis les premiers attentats sur le sol français. Les chercheurs se divisent sur le profil des radicalisés. D'où viennent-ils? Quel milieu social? Quelle cellule familiale? Pourquoi s'engagent-ils ou se laissent-ils embrigader, séduire par une idéologie mortifère? Dérives religieuses ou révoltes politiques? Les interprétations sont multiples et les querelles nombreuses. Pour savoir vraiment, il manquait peut-être juste du temps et des données jusqu'à cette première enquête vraiment sérieuse. Le sociologue Laurent Bonelli, maître de conférences en sciences politiques à Nanterre, et son collègue, co-auteur Fabien Carré, ont épluché une centaine de dossiers judiciaires de mineurs poursuivis pour terrorisme ou signalés pour radicalisation. Des jeunes jugés ou en passe de l'être pour des départs en Syrie ou des tentatives d'attentats sur le territoire français. 18 mois de recherche qui ont fait l'objet d'un rapport « Radicalité engagée, radicalité révoltée » remis au ministère de la Justice, devenu livre « La fabrique de la radicalité », un ouvrage qui paraît aujourd'hui au seuil. Derrière cette enquête, il y a l'envie de comprendre, non pas pour excuser, mais avec l'espoir évident de pouvoir empêcher aussi ces jeunes de basculer et prévenir un passage à l'acte. Dans la grande table des idées aujourd'hui, le djihadisme sous main de justice. Laurent Bonelli, Fabien Carré, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Voilà. Deux voix qu'on va tenter de reconnaître et de distinguer au fil de cette demi-heure qu'on passera ensemble. C'est un sujet que l'on peut aborder, selon vous, sans parti pris idéologique. Laurent Bonelli.
Oui, alors je crois que c'est sans doute l'une des gageurs des sciences sociales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, essayer de comprendre, c'est mettre de côté un certain nombre de partis pris qu'on peut avoir. On a évidemment, comme citoyens, on a tous.
Vous en avez aussi.
On en a également. Nous ne sommes pas hors du monde. En même temps, faire des sciences sociales, c'est aussi se donner les moyens de mettre à distance ces appétences qu'on peut avoir, politiques, idéologiques, pour essayer de comprendre un certain nombre de mécanismes et de phénomènes sociaux. Et ce qu'on a cherché à faire là derrière, c'est effectivement avoir approché ce que Max Weber appelait une démarche compréhensive, c'est-à-dire tout simplement, c'est essayer de comprendre un certain nombre de mécanismes qui amènent un certain nombre de gens à adopter effectivement certaines idéologies dans un certain nombre de conditions particulières.
Fabien Carrier, vous, vos idées reçues, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques, de controverses depuis les premiers attentats de Mohamed Merah à celui de Charlie Hebdo, ensuite en 2015 et l'hyper-cacher, beaucoup d'interprétations par des politologues, des psychologues, des sociologues. On a essayé de comprendre ce qui était en train de se jouer, qui étaient aussi ces jeunes qui se radicalisaient. Vous avez réussi, vous, à entrer dans cette matière avec un esprit, en essayant de faire un peu le ménage dans votre esprit, sans parti pris.
Oui, je pense que surtout on a eu la chance d'avoir accès à un matériau assez exceptionnel très rapidement, la signature d'une convention avec la protection judiciaire de la jeunesse qui nous a permis de consulter un certain nombre de dossiers qui étaient autrement inaccessibles. Et donc voilà, d'avoir vraiment d'être en présence d'un matériau assez important.
Pas courant que la justice ouvre ses tiroirs, ses placards à des chercheurs.
Non, c'est assez long. Ce n'est pas courant du tout. Au contraire.
Là, je dirais qu'il y a eu une conjonction intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de débats. Vous l'avez dit. Vous avez raison. Mais effectivement, il y a beaucoup de bavardage aussi sur ces questions. Et il faut prendre un peu de temps, effectivement, pour comprendre un certain nombre de choses. Et effectivement, le passage par des dossiers judiciaires. Il faut rappeler ce que sont des dossiers judiciaires. C'est des éducateurs qui font de nombreux entretiens avec des jeunes, avec leurs familles, qui étudient l'environnement. C'est une quantité. La justice des mineurs produit une quantité tout à fait considérable de données sur les individus qu'on peut utiliser pour la recherche dès lors qu'on l'objective. C'est-à-dire qu'on s'est plongé, si vous voulez, dans ces milliers de pages de rapports sur un certain nombre de jeunes, et on a mené une soixantaine d'entretiens avec les gens qui avaient écrit ces rapports, pour savoir ce qu'il y avait dedans, etc. Donc ce qui est une vraie, je pense, plus-value par rapport à beaucoup de choses sur le débat actuel, c'est que c'est sans doute une enquête qui est fondée empiriquement par un certain nombre de cas.
Alors on sait que beaucoup de rapports de chercheurs commandés par les pouvoirs publics ou le gouvernement restent là aussi à leur tour dans des tiroirs, mais ce qui est quand même intéressant à l'origine de votre démarche, c'est qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le garde des Sceaux attend de vous au moment où on vous donne les clés de ces dossiers? Est-ce qu'on attend de vous que vous dressiez une sorte de profil type, un portrait robot du jeune radicalisé?
Alors je pense que c'est sans doute dans les attentes institutionnelles, on attend toujours des sciences sociales beaucoup de choses. On attend des solutions, on attend effectivement qu'on nous donne des profils. Bon, c'est pas ce qu'on a donné en réalité. C'est-à-dire que le résultat final, c'est pas ça. La question du profilage est sans doute absurde. C'est-à-dire qu'on peut comprendre ce qui s'est passé, on peut comprendre pourquoi un certain nombre de gens mis dans un certain nombre de situations sociales font un certain nombre de choses, ça on peut le comprendre, le prédire. ça reste totalement impossible. C'est-à-dire qu'on peut, on va parler un peu des gens et des propriétés des gens qu'on a rencontrés, mais des gens qui ont ces propriétés-là, il y en a au fond des dizaines de milliers dans notre pays, dont la plupart ne passeront jamais à l'acte. Donc en réalité, la question du profilage, c'est moins et c'est sans doute une illusion absolue. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais faire du profilage d'individus. Donc que des pouvoirs publics aient ça en tête à un moment donné, mais je tiens à dire qu'on a quand même eu un retour assez positif de la part des professionnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des éléments qui nourrissent leur travail au quotidien. Et ça, je pense que c'est sans doute aussi quelque chose qui est important du point de vue des sciences sociales, c'est-à-dire de donner des clés de décryptage à des professionnels confrontés à un certain nombre de situations, qui avec ensuite leurs outils, leur savoir-faire, alors peuvent utiliser ces savoirs pour prendre en charge des situations concrètes. Ah. Et ça, je pense que c'est sans doute le pari qu'on a essayé de mener.
On va venir au résultat de cette enquête aussi, de cette étude, mais juste encore une ou deux questions sur la démarche. On trouve quel type d'informations et de données précisément dans un dossier judiciaire, et est-ce qu'il y a encore beaucoup de zones d'ombre pour vous, une fois que vous avez épluché ces 130 et quelques dossiers qui vous étaient ouverts, est-ce que vous avez cherché ces zones d'ombre à les compléter par ailleurs?
Alors, en ce qui nous concerne, nous avions vraiment accès au dossier, aux productions de la protection judiciaire à la jeunesse, donc pas au dossier judiciaire en tant que tel. Donc, les données qui étaient produites, notamment par les éducateurs et les psychologues, sont très centrées, notamment sur la question des familles, la question de l'école de ces jeunes-là, ce qui se comprend dans les logiques éducatives propres à la protection judiciaire à la jeunesse. Par contre, oui, il y a un des angles morts qu'on a identifié assez rapidement, et ça a été notamment l'intégration dans des groupes de pairs, et notamment dans des logiques militantes, dans des éventuelles cellules. Ça, c'était absolument très peu travaillé, en définitive, au sein des dossiers. Donc voilà, beaucoup de données finalement sur les familles, sur l'école, ce qui est un avantage finalement vu l'âge des jeunes en question. Ce sont les deux univers principaux, leurs deux univers principaux sont l'école et la famille. Voilà, des choses qui manquaient de ce côté-là. Ce qu'on a essayé de faire par ailleurs, c'est de coupler donc l'étude de ces dossiers à partir de là avec des entretiens faits avec les éducateurs, les psychologues, les assistants de service social de la protection judiciaire de la jeunesse qui produisaient en fait ces textes-là. Tout simplement aussi pour justement essayer de percer ces angles morts, ces boîtes noires au sein des dossiers, des écrits.
Est-ce qu'après cette étude, cette enquête, un des premiers sentiments que vous avez eu l'un et l'autre, Laurent Bonelli, Fabien Carrier, ce serait qu'on a peut-être un peu surréagi en France? Vous l'écrivez quelque part, il y a un moment où il y a presque plus de forces de l'ordre, de policiers, d'hommes ou femmes des renseignements derrière ces personnes radicalisées que de radicaliser eux-mêmes. Est-ce que on a pris certes le problème dans sa juste mesure, mais qu'on a aussi les pouvoirs publics ont surréagi? Laurent Bonelli.
Alors c'est aussi l'un des résultats de cette enquête. Vous citez, c'est un agent du renseignement français qui nous disait bon, en fait la radicalisation, il y aura bientôt plus de gens qui s'y intéressent que de radicaux. Bon. Et alors on peut comprendre qu'il y a une réaction tout à fait importante, c'est-à-dire qu'il y a des attentats meurtriers, il y a un contexte qui est un contexte tout à fait préoccupant, et c'est très juste. Bon. Effectivement, on a vu fleurir, et c'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour un certain nombre de pays européens, toute une série de dispositifs de signalement, de repérage précoce, en disant bon, au fond il faudrait essayer de repérer précocement des comportements pour éviter les passages à l'acte. Bon, on peut pas dire que ça fait pas partie d'une bonne volonté. On peut évidemment penser que prévenir des passages à l'acte, c'est tout à fait important. Alors évidemment, et c'est là que vous mettez le doigt sur un point important, c'est-à-dire que en réalité, ce qu'on fait ressortir dans l'enquête, c'est qu'au fond, il n'existe pas une forme de radicalité, fût-elle djihadiste. Il existe des comportements qui vont être qualifiés de radicalité, qui est donc de radicaliser, dont beaucoup n'ont rien à voir finalement avec l'engagement djihadiste. Beaucoup ont à voir avec des formes de provocation, notamment propres à l'adolescence. On a toute une série de données, par exemple, assez nettes dans les dossiers de formes de provocation scolaire. Vous voyez, dans un contexte chargé, notamment par l'émotion des attentats, chargé par des injonctions institutionnelles de l'école à se solidariser avec les victimes. Bah, finalement, que font des mauvais élèves dans ce cas précis? Bah, généralement, ils vont prendre le contre-pied immédiat de ces injonctions en adoptant des propos qui évidemment vont choquer dans ces questions-là. Bon. C'est-à-dire qu'en réalité, vont être rangés et agrégés, si vous voulez, sous le label de radicalisation, toute une série de comportements extrêmement hétérogènes, dont finalement une infime partie a partillé avec un engagement politique, idéologique du côté de la cause djihadiste. Et effectivement, la question qui reste une question ouverte, c'est est-ce que stigmatiser, est-ce que amalgamer dans le même ou mettre dans le même panier, si vous voulez, des comportements qui relèvent à l'évidence de l'ordre de la provocation et des comportements qui relèvent d'un engagement idéologique, n'a pas des effets négatifs sur ceux qui sont précisément dans l'ordre de la provocation.
D'ailleurs, vous écrivez, c'est un terme de chercheur, que c'est un agrégat hétérogène. Cette question de la radicalisation recouvre ce qu'on appelle les radicalisés, recouvre des réalités très différentes. Depuis 3 ans aussi, il y a bataille de mots, les mots font débat. Laurent Bonelli, celui de la radicalisation notamment, entre chercheurs, certains ont déjà essayé lui substituer d'autres mots, mais sans jamais réussir à se mettre d'accord ou à trouver le bon terme. Vous, l'un et l'autre, lui préférez à celui de radicalisation, ceux de radicalité. Au lieu de terrorisme ou de djihadisme, vous préférez parler de violence politique à référence islamique. Sur ce terrain-là, je suis pas sûre de réussir à vous suivre une demi-heure. On avait déjà à l'époque des débats sur banlieue, quartier populaire. Donc, j'entends bien que les mots sont importants. Je vous remercie pour l'instant d'employer des termes, peut-être des expressions courantes ou communément admises pour ne pas surconceptualiser là, durant cette demi-heure et nous aider à comprendre néanmoins pourquoi violence politique à référence islamique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Pour deux raisons. Bon, très simplement, la question, on parle communément de terrorisme. Bon. Le terrorisme, c'est une disqualification politique, c'est-à-dire qu'au fond, aucun groupe armé ne se revendique comme terroriste. Il se revendiquera selon le cas combattant la liberté, nationaliste, soldat de l'islam, ce que vous voudrez. Aucun groupe ne s'auto-revendique comme terroriste, d'accord ? Le terroriste, c'est toujours l'autre. Le FLN était des terroristes pour le gouvernement français durant la guerre d'Algérie. Les résistants français étaient des terroristes pour les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, etc., etc., etc. Toute une série d'anciens terroristes sont devenus des chefs d'État, confère Mandela, etc. Donc, en réalité, vous voyez, terrorisme, c'est tellement chargé politiquement que si vous parlez de violence politique, voilà, c'est de la violence qui est commise au nom politique. De la même manière, violence politique à référence islamique, le djihadisme, vous savez que la question du djihad, on n'est pas, nous, islamophones, on n'est pas... islamo-log. Voilà, je vais y arriver. Mais le djihad, c'est aussi une obligation religieuse, etc. Donc, en réalité, tout un tas de musulmans disent que djihadisme, c'est une usurpation, vous voyez, d'un terme de la religion. Donc, violence politique à référence islamique, c'est au moins l'avantage d'être neutre.
Mais long.
Donc, on utilise djihadisme comme unité parfois.
Terrorisme, c'est une qualification politique, mais aussi juridique aujourd'hui.
Alors, pas tant que ça. Alors, il y a des qualifications juridiques, mais vous vous rendez compte que c'est très compliqué. Et si, je veux simplement vous prendre un exemple, le départ en Syrie aujourd'hui est qualifié de terroriste dès lors que vous rejoignez l'État islamique ou le front le Jabhat al-Nusra, ce n'est pas qualifié de terroriste si vous rejoignez le PKK, qui pourtant est qualifié comme groupe terroriste. Donc théoriquement, vous devriez être qualifié de terroriste si vous rejoignez le PKK.
Vous ne l'êtes pas. Vous avez ouvert, Laurent Bonelli, Fabien Carrier, la comparaison avec d'autres formes de radicalité dans l'histoire. À l'instant, dans la première partie de la Grande Table, on recevait l'écrivain Jérôme Ferrari pour À son image, son roman qui évoque le nationalisme corse, le met en parallèle avec celui qui, dans les années 90, a aussi réveillé les tensions et mis à jour le conflit entre les Croates et les Serbes. Même aspiration en Corse d'une jeunesse à s'engager, même rébellion contre les institutions pour ces jeunes, avec peut-être une fierté de militer au FNLC, un sentiment de se trouver une place dans la communauté, place qu'ils retrouvaient à leur sortie de prison. Est-ce que ce sont des radicalités comparables? Je vous propose d'écouter la mère de Jean-Marc Rouillant, le fondateur d'Action Directe, extrait d'un documentaire Action Directe, un terrorisme à la française, diffusé sur Planète, documentaire de Clémence Badou.
Il était très vif, très vite contrarié, mais il était comme les autres. Il aimait jouer, il aimait... Bon, après, il est allé à l'école, ça s'est passé normalement. Et puis voilà, ça a commencé à se gâter à l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas 16 ans qu'en mai 68. Il a entraîné dans cette aventure où il a pris goût. Et puis, il a continué à lutter contre les injustices sociales, contre tout cela. Et surtout, l'influence importante, c'était l'Espagne.
Laurent Bonelli, Fabien Carrier, qu'est-ce qui, à vos yeux, distingue clairement, fondamentalement, la radicalité djihadiste d'autres formes de radicalité qu'on a pu connaître? Et qu'est-ce qui les rassemble, peut-être?
Alors, je dirais juste un mot sur la mère de Jean-Marc Rouillant, qui a sans doute, qui met le doigt sur sans doute quelque chose que partie des commentateurs oublient. D'abord, c'est pas pathologique. Il était normal. Bah oui, en réalité, je crois qu'il faut tout de suite écarter ce genre d'explication, vous voyez, de la pathologie, de la violence ou de la radicalité.
C'est un des travers, depuis 3 ans, de trop médicaliser cette question.
On médicalise alors que rien, il n'y a absolument aucune évidence là-dessus. On a eu, nous, sur tous ceux qu'on a étudiés, il y a des rapports d'expertise psychiatrique qui montrent qu'il n'y a absolument aucun problème de cet ordre-là. Bon, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense que ce qu'elle montre, c'est la question que vous posez est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'invariants qu'on peut tout simplement comparer. Alors, attention, ça ne veut pas dire que toutes les choses se valent. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire action directe, c'est la même chose que du djihadisme ou c'est la même chose que du nationalisme corse ou basque, etc. En même temps, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont tout à fait communs. Elle en parle, elle dit, ben voilà, il s'est engagé, il y a la question de l'Espagne. Ben oui, il y a des effets de contexte. Il y a des moments dans lesquels il y a des contextes dans lesquels, évidemment, des engagements sont possibles, plausibles. Pour ce qui nous concerne, la fenêtre syrienne est un point tout à fait important. C'est-à-dire que les jeunes qu'on a étudiés sont très largement liés à une configuration qui est dans laquelle ils peuvent se projeter dans la construction d'une utopie concrète, qui est la fabrication d'un État islamique, qui est à un moment donné, finalement, une fenêtre très réduite dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je suis les mineurs poursuivis pour départ en Syrie, il n'y en a plus pratiquement, pour une raison très simple, c'est que l'option d'aller en Syrie construire quelque chose, en raison des routes militaires de l'État islamique, ne se pose plus. Donc, il y a des effets de contexte, ça c'est quelque chose de tout à fait important. Il y a de l'idéologie, il y a des idéologies qui sont en circulation, dont on peut, à un moment donné, se saisir. C'est-à-dire qu'effectivement, projeter des jeunes qui ont un certain nombre de caractéristiques comme celles qu'on a pu étudier dans les années 70, ne se seraient évidemment pas tournées vers du djihadisme qui était quelque chose qui n'existait pas. Ils se seraient très probablement tournés vers d'autres formes d'idéologie et de contestation de l'ordre social et politique tel qu'il est. Voilà. Donc, contexte, présence d'idéologie disponible, présence ou pas d'organisation. Est-ce qu'il existe des organisations pour canaliser et pour donner un sens et pour politiser des désajustements sociaux? Bon, tout ça, ce sont des mécanismes qui sont comparables d'un engagement à l'autre et en même temps qui sont singuliers en fonction des contextes dans lesquels ils se déploient.
Et puis peut-être, Fabien Carrier, l'environnement familial, on entend dans les mots de Michel Rouillant cette idée qu'on retrouve dans les profils que vous, pas tous bien sûr, on ne va pas faire de généralité, mais de ceux que vous décrivez, que tout allait plutôt bien, enfin c'était un garçon plutôt à l'aise.
Oui, je pense qu'effectivement, ça pourrait être un...
Elle ne l'a pas vu venir, en fait.
Non, la plupart des parents, la quasi-totalité des parents, notamment des jeunes djihadistes qu'on a pu étudier, n'ont absolument pas pu voir venir la chose. Je pense que c'est par ailleurs sans doute une des différences avec les quelques jeunes nationalistes corses de notre
Ferrari,
étude, qui pour le coup étaient déjà insérés dans des maillages familiaux, sociaux, militants, beaucoup plus importants, ce qui est absolument pas le cas pour les jeunes djihadistes utopiques de l'étude de notre étude. Ou en l'occurrence, effectivement, cette question-là n'a pas été vue. Ce sont des jeunes, dans le cas des utopiques, et des gens vraiment engagés, qui avaient jusque-là une scolarité assez bonne, en tout cas qui étaient conformes et qui où les choses marchaient assez bien à l'école et qui n'étaient pas déviants d'une manière ou d'une autre. Voilà. On va pas trop développer là-dessus, mais...
Il y a aussi le regard que la communauté porte sur eux. Vous l'évoquiez avec les nationalistes corses, quand ils sont en prison, quand ils en ressortent et qu'ils reviennent sur l'île, s'ils ont été incarcérés ailleurs, dans le sud de la France notamment, ils sont très bien accueillis par leur communauté. Et il y a une fierté aussi dans le regard des autres. Est-ce que c'est le cas pour ces jeunes djihadistes qui rentrent de Syrie ou d'Irak?
Alors, je pense qu'il y a une chose qui est tout à fait singulière dans l'étude. L'un des résultats qui est sans doute une surprise. C'est-à-dire qu'en réalité, bon, on s'attendait, en commençant ce travail, au fond, à trouver des jeunes qui seraient des jeunes délinquants, finalement, un peu profil à la Coulibaly, vous voyez, ce genre de choses. C'est-à-dire des jeunes délinquants avec des lourds passés.
Rappelez-nous Coulibaly.
Coulibaly, donc c'était l'un des responsables des attentats de janvier 2015, vous vous souvenez, de l'hypercacher, notamment. Bon, et vous avez le bouquin de Fabien Truong là-dessus, qui montre ça très très bien. Donc c'est plutôt des enfances heurtées. Enfin, c'est finalement le profil, on pourrait dire traditionnel, du petit délinquant de banlieue qui en échec scolaire, qui passe par la drogue, puis vers le braquage, etc. Bon, on avait ça, Mohamed Merah à Toulouse, c'est la même chose. Enfin, bon, il y a toute une histoire, vous voyez, de jeunes gens qui sont passés par la délinquance et qui ensuite passent à l'acte sur des actes graves. Bon, on était un peu parti avec cette idée, si vous voulez, en disant c'est ça qu'on va trouver. Et en fait, pas du tout. De manière absolument mais écrasante. Et ça, c'est très surprenant. On n'a pas du tout ça chez les mineurs.
Vous avez quoi?
On a quoi? On a alors des jeunes qui sont issus de parents qui sont des migrants de première génération, qui ont investi à fond dans la scolarité de leurs gamins. C'est-à-dire qu'ils les ont finalement mis sous cloche, vous voyez, pour que ces gamins réalisent un projet d'ascension sociale par procuration. C'est-à-dire en disant, voilà, ils les ont poussés pour que ces gamins marchent à l'école. Donc ça veut dire ils les ont coupés des sociabilités de quartier. On n'en a aucun, la plupart d'entre eux ne sont pas connus par la police et la justice pour des faits de délinquance. Mais c'est écrasant, plus de 90% d'entre eux ne sont pas connus, vous voyez, ce genre de choses. Ça veut dire qu'on leur a donné des moyens d'étudier. Bon. Et on a une chambre, des ordinateurs, des choses comme ça, on leur a enlevé les tâches domestiques. Et en même temps, et c'est là que c'est absolument fantastique, c'est-à-dire, et ça marche. C'est-à-dire que c'est des parents, vous voyez, qui se sont engagés pour qu'il y ait un projet scolaire. Ils ont dit, il y a une ascension sociale, cette ascension sociale, elle va se faire par l'école. Et ça marche. Au primaire, au collège, ce sont pour l'essentiel des bons élèves. La plupart d'entre eux, ils viennent de milieux populaires, accèdent à l'enseignement supérieur généraliste. Ils passent en seconde générale, première générale, ce qui est, il faut le rappeler, rare en milieu populaire. Là, on en a plus de la moitié qui sont dans les filières générales. Bon. Et là, vous avez raison. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que, passant, vous voyez, de cette scolarité, notamment dans des collèges de banlieue, à des lycées souvent de centre-ville, c'est des gens qui souvent habitent dans des petites villes. On en a plus de la moitié qui habitent dans des villes de moins de 50 000 habitants. Vous voyez, c'est plutôt des petites villes. Ils se retrouvent en étant venant de milieux populaires, venant de la migration, parfois le seul arabe de la classe. Ils passent de très bons élèves à élèves moyens, médiocres. C'est-à-dire toute la croyance qu'ils avaient mis dans l'école s'effondre sous le joug, sous à la fois sous les coups de l'institution et sous les coups de leurs collègues, des autres élèves. Il y a une sorte de racisme social qui se développe. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Leur appétence pour l'école, tout ce que, finalement, cette appétence pour un savoir, ils vont le reconvertir sur autre chose, c'est-à-dire sur l'investissement d'une autre cause intellectuelle qui leur permet de prendre simultanément le contre-pied de l'école et le contre-pied de la famille. Et cette cause, ça va être l'idéologie djihadiste.
Alors, toujours retour d'Action Directe, pour terminer sur ce parallèle, cette comparaison de différentes formes de radicalité, je vous propose d'écouter les mots de Michel Viviorca, qui font écho et qui pourraient peut-être se prêter aujourd'hui encore à la situation des djihadistes français.
Ils sont vraiment les tout derniers éléments portés par des logiques oniriques, mythiques, idéologiques, portés par des idées qui n'ont aucune emprise sur le réel, et qui n'ont aucun lien avec la réalité. Donc, ils sont les derniers éléments de tout un ensemble de processus de type historique.
Voilà, il y a aussi des mythologies. On coupe avec la réalité, une rupture avec ce qui fait leur cadre quotidien. Fabien Carrier.
Une rupture, je ne suis pas tout à fait sûr que ça se passe dans ces logiques-là. Enfin, en tout cas, ce n'est pas nous ce qu'on a pu voir dans les dossiers, en définitive. Le moment dont parlait Laurent tout à l'heure, de cette sanction scolaire qui arrive, qui n'est absolument pas anticipée par les jeunes et par leurs familles. Hein, cette belle expression d'un éducateur qui dit voilà, on a des parents qui maintiennent leurs enfants sous une espèce de cloche parentale, et donc finalement des enfants qui n'ont pas anticipé pour le coup la sanction, qui n'ont pas anticipé quelle était leur position objective et le rapport à l'école qu'ils pouvaient avoir. Cette sanction là. Elle arrive brutalement, c'est pour le coup une forme de déchirement du voile, et c'est finalement tout leur univers qui s'effondre. Leur statut jusque-là au sein de la famille qui était défini par leur position de bons élèves, qui disparaît, qui du coup entraîne une incompréhension des parents. On a donné tout ce qu'on avait pour que tu réussisses, comment se fait-il que tu ne réussisses pas? Et voilà, ils ont souvent... une incapacité à aller ailleurs, hein. Ils ne fréquentent pas le quartier, ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas ces codes, donc ils se retrouvent un peu seuls pour gérer cette situation, et dès lors, effectivement, le discours, en l'occurrence djihadiste, hein, les vidéos, ainsi de suite, vont permettre finalement de résoudre en grande partie, ils vont bricoler à partir de ça pour essayer de résoudre leurs problèmes, si vous voulez, à la fois les résoudre vis-à-vis des parents. On mobilise du coup un savoir alternatif à l'école, qui est un savoir religieux, spécifique djihadiste qu'on peut opposer, une forme d'universel alternatif à l'école, et qu'on peut opposer aussi, finalement, opposer au projet parental. Le projet parental à son social, via l'école, on oppose autre chose, hein, la pureté militante, la pureté religieuse. Voilà. Donc, est-ce qu'ils sont coupés de la réalité? Je pense pas. Je pense que voilà, ils bricolent à partir de ce qu'ils ont, de leur vécu, hein, de leur vécu effectif, de leur situation sociale et de leur position.
France Culture, il est 13h20 avec nos invités Laurent Bonelli et Fabien Carrier pour La Fabrique de la Radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français qui paraît aujourd'hui au Seuil.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Agonistique, apaisante, rebelle, utopique, vous définissez quatre registres de radicalité observés, la dernière catégorie, entre guillemets, étant la plus dangereuse. Mais cette première grande idée reçue qu'on vient d'aborder, que votre étude semble contredire, celle de jeunes issus de familles plutôt stables, au parcours scolaire prometteur, avec des rêves d'ascension sociale et des parents plutôt bien intégrés, qui seraient donc amenés à se tourner vers cette utopie et cette radicalité, ce sont souvent eux qui commettraient les actes aussi les plus graves et non pas, comme on imagine souvent, des jeunes paumés au casier judiciaire déjà bien chargés. L'école les a trahis, ça c'est un des points importants que vous soulignez dans cette étude, Laurent Bonnelier et Fabien Carrier. Ils n'arrivent pas à répondre aux attentes qu'on a données, définies en eux. On n'a pas parlé du facteur religieux, c'est un argument qui revient depuis trois ans très souvent dans le discours ou les mots des chercheurs. Pour vous, c'est finalement un facteur assez mineur de leur engagement ?
Alors, c'est une vraie question. Je pense que l'une des erreurs dans le débat sur la question de la religion, c'est au fond d'autonomiser la religion. Ce serait une séparation de la religion et du politique. Donc, en réalité, c'est deux choses complètement différentes. Les jeunes qu'on a étudiés croient en Dieu. Incontestablement, ce sont des gens qui investissent des croyances religieuses. En même temps, ces croyances religieuses ne sont pas, contrairement à celles qu'on peut revoir se déployer ailleurs, limitées au champ religieux. C'est pour ça qu'on parle d'idéologie. C'est une idéologie qui est inséparablement religieuse et politique. Bien sûr, elles veulent changer des choses dans le dogme religieux, mais en même temps, c'est une idéologie qui a des ambitions temporelles tout à fait importantes. La construction d'un État islamique. Quand vous avez des attentats qui frappent ici, ils ne frappent pas des mosquées, ils frappent des institutions publiques, etc. Donc en réalité, je crois que séparer vous voyez, la question de ce qui relèverait du religieux, de ce qui relèverait du politique, est sans doute une mauvaise manière de procéder.
C'est ce qu'on a fait, quand même, un peu trop, depuis trois ans. C'est ça. Vous prenez pied, vous, dans le clivage, la polémique, la controverse entre Gilles Kepel et Olivier Roy
Nous, on a été d'une très grande gentillesse dans ce livre, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne règle de compte avec pratiquement personne, parce que je pense que beaucoup de ces débats sont en réalité des faux débats. Alors, c'est sans doute des débats qui fonctionnent très très bien, médiatiquement, politiquement, mais qui sans doute, je dirais, sauf à dire, bon, tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort, je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est prendre un autre angle, c'est-à-dire c'est d'essayer de mettre à jour un certain nombre de mécanismes sociologiques qui permettent d'expliquer un certain nombre de mécanismes et de passages à l'acte. C'est-à-dire, à un moment donné, l'idéologie, vous voyez, c'est pas quelque chose qui flotterait voilà, au-dessus des gens comme l'étoile du berger, c'est pas ça. C'est à un moment donné, il y a des conditions pour que des gens reçoivent un message et fassent à l'acte. Et c'est ça qu'on a essayé d'explorer finement et de suivre finement. Donc voilà, on s'est pas complètement positionné sur ces débats-là, parce que en réalité, on a essayé de montrer autre chose.
Dans ces débats, le facteur extérieur est aussi régulièrement mis en avant. Gilles Kepel a souligné notamment l'importance de la référence coloniale comme combustible important selon lui dans le djihadisme. D'autres mettent en avant les bombardements occidentaux en Irak et en Syrie, avec pour cette génération le besoin peut-être de revanche ou d'incarner cette revanche. Vous soulignez l'arrivée souvent d'un tiers dans le processus de radicalisation qui va politiser la réaction de ces jeunes, des passeurs de sang. Quelle est la matrice qui leur est transmise, la justification de ces actes futurs qu'ils commettront ou ne commettront pas finalement?
Alors, je pense qu'il est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que si on se contente, vous voyez, des discours de justification sur le colonialisme, sur les inégalités, sur l'islamophobie, etc., en réalité, il n'y aurait pas 62 mineurs qui seraient partis en Syrie, on en aurait des dizaines de milliers. Voilà, donc c'est à un moment donné, ça veut dire que pour que ces formes de revendication donnent ensuite un passage à l'acte, produisent des actes, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions très particulières qui sont réunies, qui sont celles qu'on a essayé de mettre à jour. Donc sur la question que vous posez, c'est au fond, on se rend compte que ces jeunes qui sont désajustés scolairement, désajustés dans leur famille, effectivement, ils vont chercher des gens comme eux, c'est-à-dire des gens qui partagent des expériences similaires. Et ça, ils vont en trouver un certain nombre d'entre eux. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle une prise de conscience. C'est-à-dire que vous passez, vous voyez, de ce qui pourrait être vu comme un échec individuel à quelque chose de collectif. Et là interviennent ces passeurs de sens, c'est-à-dire des gens plus politisés qui vont donner un sens à cela, en disant, voilà, si vous avez cela, c'est pour tel et tel type de raison, et ces gens vont non pas être des marionnettistes cachés, vous voyez, qui vont les manipuler, les faire agir, mais ils vont leur donner des raisons d'agir. en disant s'il se passe ça, c'est pour telle raison. Ils vont le légitimer religieusement, en allant puiser dans des discours de savants religieux, en disant regardez, machin a dit que, et dans leur expérience quotidienne. Et ils vont instaurer ces chaînes de sens, ces chaînes de causalité entre les choses, qui permettent ensuite d'inscrire son action, c'est-à-dire ce que l'on a vécu, dans un sens plus général.
Et c'est un contresens aujourd'hui que les acteurs de terrain, à l'école, mais aussi parfois dans les mosquées ou dans les associations, tentent d'établir aujourd'hui. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire de Clarisse Feltin, « La France face aux repentis du djihad ».
Vous donner un cahier pour un enfant syrien au Liban, c'est ça le djihad pour moi. C'est ça le djihad.
Vous nous dites que le plus important pour les enfants qui sont au Liban ou en Syrie, soi-disant le plus grand djihad, c'est de leur donner un cahier.
Oui.
Qu'est-ce qu'un enfant va faire avec un cahier?
Oui.
Il est sous les bombardements.
Bah, apprendre à écrire, à lire. Tu veux une génération sans savoir lire et écrire?
C'est quoi ce phénomène à l'heure actuelle? L'éducation. Enfin, c'est pas l'éducation générale, hein, avec un grand E, c'est l'éducation scolaire. Pourquoi scolaire? Mes parents, ils m'ont saoulé avec l'éducation scolaire. Et moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi.
Parce que pour moi.
C'est quoi ce
pour moi,
phénomène?
Attends. Je m'appelle Mohamed. J'habite à la mine. Ma seule, unique chance en France pour réussir dans ce bled, pour avoir ma place, c'est d'avoir des diplômes. J'aimerais bien que les enfants issus de l'immigration prennent leur place et ne soient pas aux marges de la société française. Et comment on peut être dans la société française? C'est grâce à l'école. Et comment on peut affronter les autres? C'est grâce à l'école. Donc je suis d'accord 100% avec tes parents.
Voilà, extrait qui vous fait sourire. Mais c'est vrai que le combat est quand même difficile à mener après pour ces acteurs. Et je pense que les personnes de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse que vous avez rencontrées, ont dû vous montrer parfois le fossé qu'il y avait à remplir, la distance qui avait été prise entre eux et ces jeunes.
Oui, alors...
Fabien Carrier.
Juste être rapidement une réaction sur, le, sur, sur ce qu'on vient d'entendre. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que l'intervenant face aux jeunes, finalement, reproduit un discours qui est le discours
de l'institution et des parents,
et qui a toutes les chances, du coup, d'être rejeté. Parce que c'est à nouveau, en plus, voilà, sans doute marqué par l'État. Et, donc il y a peu de chances que ce discours-là fasse...
Alors vous tendez la perche, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le discours qui peut les toucher? Parce que c'est ça la question aujourd'hui, c'est ce que votre étude, votre rapport doit nourrir aussi comme questionnement. Quelle est la bonne réaction à avoir?
Sur les éducateurs de la PJJ, hein, finalement, qu'on a eu l'occasion de voir, la plupart étaient plutôt sur des mesures judiciaires d'investigation éducative. Donc pas forcément sur un volet, sur un volet d'abord de renseignement et de suivi, plus que sur un volet de tentative finalement de faire changer d'avis de ces jeunes-là. Voilà. Ils sont allés surtout sur le terrain éducatif, sur le terrain familial, pour voir quels étaient les problèmes, ainsi de suite, mais sans forcément nourrir un contre-discours, ce qui n'était pas la plupart du temps leur travail. Et ils établissaient en général un cadre assez net.
Laurent Bonnelli, vous voulez conclure? Les sciences sociales, on va continuer de l'espérer, peuvent peut-être inspirer l'action ou la réponse politique, ou pour reprendre les mots de François Burga, il ne s'agit pas de combattre les djihadistes, mais d'arrêter de les fabriquer. Clin d'œil au titre de votre essai « Enquête, la fabrique de la radicalité ». Alors comment faire?
Moi, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, il n'y a pas une réponse globale, il y en a plusieurs. D'abord, je pense qu'un point important, c'est de penser que la question de la radicalité n'est jamais univoque, ça se passe jamais dans un sens, mais les institutions ont un rôle là-dedans tout à fait important. C'est quelque chose, c'est un processus relationnel. Donc très souvent, des réponses institutionnelles ont des effets néfastes sur les individus, leur identité, leur subjectivité. C'est le premier élément, je pense, tout à fait important. Ensuite, pour les plus convaincus, effectivement, la question se pose moins de savoir comment on les déradicalise, comme on l'entend parfois, de savoir plutôt sur quoi est-ce qu'ils peuvent se projeter après. On prenait l'exemple tout à l'heure des Basques, par exemple. Effectivement, un nationaliste basque qui sort de prison, il sort rarement de prison moins nationaliste que quand il y est entré.
Vous êtes extrêmement pessimiste après cette enquête de 18 mois, ou au contraire?
Non, je pense qu'on croit en l'intelligence de l'homme, sinon on ne ferait pas de sciences sociales. Donc on reste profondément optimiste.
Merci beaucoup à vous deux. Merci à Laurent Bonnelli, merci Fabien Carrier. La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français, vient de paraître au Seuil. Merci d'être venu nous présenter les résultats donc de cette enquête. À la programmation, préparation toute cette semaine, Rien de la Croix et Henri Leblanc pour la grande table culture, Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour votre grande table des idées, avec l'aide très précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation émission aujourd'hui. C'était Perret Legras avec Édouard Rubinstein. Très bel après-midi à tous.